Donc maintenant, j'appelle à la tribune Julie Curien, en tant que responsable de la commission Bibliothèque Verte, et Ren Burki, qui a coordonné l'ouvrage sur la transition écologique et bibliothèque. Donc voilà, le temps qu'elle s'installe. Donc là, la formule va être sous forme de dialogue, plus que d'une présentation, même s'il y a quelques images qui vont venir. Voilà, engager les bibliothèques dans la transition écologique, c'est à vous, mesdames.
Rebonjour à toutes et tous. Voilà, et le PowerPoint s'affiche aussi. Donc, après une intervention scientifique et deux interventions institutionnelles, merci beaucoup d'ailleurs à Benoît Léniel et Nicolas Georges, je prends la parole pour parler à présent. Pour une intervention que nous avons appelée « Regards croisés sur les bibliothèques, actrices de la transition écologique ». Donc c'est un dialogue que nous vous proposons à présent, un dialogue entre Ren Burki, et moi, Julie Curien. C'est un dialogue qui nous permettra de parler ensemble de transition écologique et bibliothèque et d'échanger sur les principaux enjeux identifiés à ce stade et les champs d'application de la transition écologique dans et avec les bibliothèques. Alors pourquoi Ren Burki et moi pour ce temps de dialogue et ces regards croisés? Parce que nous avons souhaité mettre en relation deux projets transverses d'envergure qui ont été pilotés par l'une et l'autre dans des calendriers très approchants sur ce thème de la transition écologique et de la responsabilité sociale et environnementale des bibliothèques. Et parce que ces deux projets trouvent aujourd'hui, après plus d'un an de travail, une forme de concrétisation qui est propice à un recul bienvenu pour échanger sur la genèse et les questions qui traversent ces deux projets. Alors, quels sont ces deux projets qui occasionnent et sur lesquels se fonde ce dialogue? Ren, si tu veux bien annoncer ton lien avec l'ouvrage. Voilà.
Donc, moi, j'ai coordonné cette année la parution d'un ouvrage aux presses de l'ENSIB dans la collection La boîte à outils, qui est une collection assez pratique, qui partage des retours d'expérience, mais aussi des articles plus réflexifs, voire prospectifs. Et donc, ce numéro 52 de cette collection La boîte à outils s'intitule « Engager les bibliothèques dans la transition écologique ». Et donc, c'est un ouvrage que j'ai coordonné qui rassemble une quinzaine d'auteurs sur ce sujet-là.
Voilà, et pour ma part, je pilote la commission Bibliothèque Verte de l'ABF, qui a vu le jour en juillet 2022, et parmi mes investissements au sein de ce groupe, je coordonne depuis début octobre 2022 l'activité du blog Bibliothèque Verte ABF, dont le rythme de parution nous permet aujourd'hui d'atteindre, enfin, depuis hier très précisément, le volume de 50 parutions. Donc, avant d'en terminer avec cette introduction, je précise que nous prévoyons avec Rennes, si nous y arrivons, un temps d'échange avec vous en fin d'intervention pour continuer d'ouvrir ce dialogue. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions. Alors, on ouvre un petit peu le dialogue sur une première question. Pourquoi le sujet de la transition écologique et des bibliothèques se formalise aujourd'hui, d'après toi, Rennes?
Alors, avant de dire pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est important de rappeler qu'il y a une certaine historicité de l'engagement des bibliothèques sur ce sujet. Le sommet de Rio, c'est 1992, l'agenda 21. Plus tard, déjà en 2010, on a déjà un premier ouvrage, « How Green is My Library ?» Library, excusez-moi de l'accent, qui est publié en 2010. En 2014, on a un ouvrage qui est porté par Joachim Schöffel et Sherif Aboukassem sur l'engagement des bibliothèques dans l'agenda 21. Donc on voit qu'il y a déjà une antériorité de la réflexion de la profession autour des enjeux de transition écologique. Alors à l'époque, on parlait plutôt de développement durable. On était sur les enjeux des ODD avec l'agenda 2030. En 2017, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a un moment important pour la profession, c'est le groupe de travail Bibliothèque française engagé dans l'agenda 2030 qui a été impulsé par Raphaël Batz et qui associait l'ENSIB, l'ABF, le CFIBD, la BPI. Et je pense que ça a été un ton fort, un marqueur aussi d'un tournant, d'une prise de conscience dans la profession que toutes les bibliothèques déjà à travers leur mission et leurs activités qui sont leur cœur de métier sont déjà engagées dans ces objectifs de développement durable et parfois même sans le savoir d'une certaine façon. Donc on n'est pas sur un sujet complètement nouveau. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine convergence. On l'a vu, le cadre réglementaire évolue. Si on prend la loi climat et résilience, c'est 2021. La loi REN pour la limitation de l'empreinte numérique, de l'empreinte environnementale numérique, c'est également 2021. Des politiques publiques qui se structurent, on l'a vu également avec les feuilles de route interministérielles. Donc on voit qu'il y a une actualité qui est aussi structurante pour les établissements, qu'ils soient d'enseignement supérieur ou de lecture publique. Et puis il y a une prise de conscience au niveau, je pense, de la profession, une prise de conscience de monter en conscience collective, qui avait donc été bien impulsée par ce groupe de travail en 2017. Mais on a vu aussi progressivement se structurer beaucoup d'initiatives dans les établissements, et là à quoi on assiste, c'est que ces enjeux de transition écologique, il y a une forme de formalisation. On passe d'initiatives qui étaient peut-être de l'ordre individuel dans les établissements à aujourd'hui, on voit qu'à l'intérieur des projets d'établissement se structurent les enjeux de transition écologique, qu'on voit apparaître également des profils, des missions, développement durable, référent développement durable au sein des établissements. Et puis, ça a été également évoqué tout à l'heure par Nicolas Georges, le référentiel récent, référentiel de compétences des bibliothèques territoriales, donc on est très récent, en 2022, voit apparaître ce domaine transition écologique et responsabilité sociale. Donc on voit qu'on est sur une actualité avec une convergence de terrain et de conditions pour réfléchir collectivement à ce sujet.
Oui, il y a une sorte de... Je vais rebondir sur cette convergence. Quelque part, on pourrait se demander si les années 2020 ne sont pas une forme de tournant, en fait, dans un terrain qui était déjà travaillé, effectivement, par les bibliothèques. Puisque depuis le début de cette décennie, tout particulièrement, les sujets de la transition écologique revêtent une nouvelle ampleur. On a un nombre croissant d'alertes sur l'état de la planète, que Benoît Léniel a rappelé tout à l'heure. Il y a eu la crise du Covid, bien évidemment. Il y a le dérèglement climatique dont les manifestations sont de plus en plus concrètes et spectaculaires. Et tout ça joue le rôle d'accélérateur de prise de conscience, avec un premier pas, c'est qu'on prend conscience des limites planétaires et donc de nos vulnérabilités. Et le deuxième pas, c'est qu'on prend conscience de nos pouvoirs, voire de nos devoirs d'action pour limiter ces impacts et anticiper un présent et un futur soutenable. Et ces deux pas, quelque part, je dirais que pourquoi aujourd'hui ça se formalise, c'est aussi parce que ça se retrouve dans deux évolutions notables qui vont toutes les deux rencontrer nos métiers directement. La première, c'est la couverture médiatique du sujet. On parle de l'état de la planète et de la transition écologique, on en parle plus, beaucoup plus. Les sujets du climat et de la biodiversité, par exemple, sont aujourd'hui bien plus présents sur le web, dans l'écosphère, en fait, global, information, communication, et à travers les relais dont ils font l'objet dans les médias, sur le web, sur les réseaux sociaux. Avec un point de vigilance important, c'est que le traitement de cette information traduit toute la complexité de l'enjeu, avec un large faisceau d'informations plurielles à décrypter, comportant des écueils comme la désinformation et le greenwashing. On est dans un paysage informationnel qui nécessite donc des efforts et des compétences pour exercer un tri parmi ces ensembles de données, et de pouvoir donc se fonder sur des informations fiables, pertinentes, valides sur le sujet, dans un domaine qui lui-même fait l'objet de recherches évolutives. C'est l'un des sujets sur lesquels les bibliothèques ont bien sûr un rôle important à jouer. La seconde évolution notable à mon sens, c'est, et ça a déjà été évoqué ce matin, c'est l'inscription effectivement croissante du sujet de la transition écologique dans l'agenda politique, dans l'agenda institutionnel, à l'échelle nationale et dans les territoires. Sur la manière dont les bibliothèques se situent par rapport à ces sujets, elles continuent de se saisir, elles le faisaient déjà, et elles continuent de se saisir de manière croissante ces années 2020 de ce sujet de la transition écologique. Je vais citer quelques exemples qui rejoignent les tiens, Rennes. L'été 2022 déjà, pardon, quelque part des planètes alignées pour des bibliothèques vertes, puisqu'on a la mise à jour du manifeste IFLA UNESCO sur les bibliothèques publiques, où les enjeux de sustainability sont très présents dans cette mise à jour qui était très attendue. On a le lancement de la commission bibliothèque verte ABF, et on a pour la première fois dans le cadre du Green Library Award, qui est un prix de l'IFLA,
absolument, la commission SULIB,
Tout à fait. On a la présence de deux bibliothèques françaises dans ce prix, et l'une des bibliothèques remporte le prix, la médiathèque Canopée-La Fontaine, dans la catégorie projet. Et puis, dans le reste de l'année, de 2022 à 2023, on a plusieurs signes, en fait, hein, de cette prise en compte croissante et de plus en plus structurée aussi de ce sujet. On a le développement de l'offre de formation sur ces sujets. On a, c'était évoqué tout à l'heure, l'apparition parmi les compétences transverses en bibliothèque de la nouvelle compétence transition écologique et responsabilité sociale dans le référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales. On a une couverture croissante aussi du sujet par la presse professionnelle, et on a donc des outils professionnels dédiés, puisqu'on parle de parution professionnelle. On a donc la création du blog Bibliothèque Verte ABF en octobre, et la conception puis la publication d'un nouveau titre dédié au sujet aux presses de l'ANSIB, et donc coordonné par Rennes. Donc quelque part, les feux sont effectivement au vert pour avancer sur ces sujets grâce à ces outils dont je vous propose à présent de parler. On va parler boîte à outils avec un livre, un blog. Et donc, la parole est à Rennes pour parler un petit peu de ce format de livre. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Alors, pour faire transition avec ce que tu viens de dire, ça aurait été formidable de faire ce livre il y a 10 ans, parce que ça aurait voulu dire qu'on avait déjà une certaine maturité dans la conscience collective du sujet, mais ce n'était pas possible. Donc, pourquoi ce livre aujourd'hui ? C'est parce qu'aujourd'hui, on a des auteurs qui sont en capacité déjà d'apporter des retours d'expérience et des réflexivités sur le sujet. Et pourquoi le format édité ? C'est bien aussi le sens de ta question. Je pense qu'il y a on est dans une profession qui publie beaucoup, qui échange beaucoup, qui est très réactive et très engagée. On le voit dans la multiplication des journées d'études, webinaires, blogs. Et je pense qu'un livre édité dans ce paysage, il a aussi son importance, parce qu'il fait un peu une photographie à l'instant T du sujet. Il le documente. Et puis, ça s'archive. Voilà, c'est aussi quelque chose auquel on peut se référer dans la construction, la documentation de notre profession.
Ok, merci. Alors, je vais me retourner à la question. Pourquoi, pour le coup,
pourquoi
un blog
et qui est dans une dynamique rédactionnelle beaucoup plus réactive ?
Tout à fait. Alors, donc, l'idée d'un blog, elle est venue assez naturellement au moment du lancement de la commission. On avait dans l'idée de disposer d'un outil qui serait accessible, qui serait dynamique, pour partager auprès du plus grand nombre le fruit de notre veille et de nos recherches actives, puis donc de nos publications. Quelques mots sur ce blog. La première année de vie du blog, donc de la première année calée grosso modo sur un agenda scolaire universitaire, on a souhaité répondre aux nouveaux besoins identifiés, couvrir un ensemble de sujets qui nous tenaient à cœur. Donc on a été avec un rythme de parution très soutenu, sur un rythme de parution donc hebdomadaire, avec des thématiques variées et complémentaires, grâce à une pluralité de contributeurs que je remercie largement. Aujourd'hui, on a un peu ralenti notre production, puisqu'on est à 2 parutions mensuelles, ce qui nous donne à la fois le temps de mieux partager et faire connaître ces contenus, mais aussi de nous investir dans d'autres volets de l'activité de la commission, qui sont nombreux, puisqu'on intervient lors de journées d'études, de rendez-vous professionnels, dans le cadre de groupes de travail ministériels déjà évoqués lors de cette matinée, et d'autres champs d'activité. Ceci étant, le rythme régulier de parution nous semble essentiel pour valoriser ce sujet de la transition écologique, à la fois le rendre attractif au sein de la profession quelque part, mais aussi lisible et accessible, et d'ancrer petit à petit une culture bibliothéconomique de la transition écologique. Et puis aussi, sur le choix du blog, il y a le fait qu'il y a une certaine liberté dans le recours à ce type d'outils. C'est-à-dire, au besoin, les articles peuvent être plus ou moins longs, ils peuvent être illustrés de photos, de vidéos, de fichiers à télécharger le cas échéant. Les thématiques traitées peuvent se croiser et on peut très facilement faire des liens, ce qui est très important, hein, sur ce sujet qui est hautement transversal. Et puis, effectivement, Rennes l'évoquait, les publications s'inscrivent dans une évolutivité qui permet d'embrasser l'actualité du sujet. Alors, ce sujet, la transition écologique, il est très vaste, je crois qu'on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, donc j'ai une question pour poursuivre ce dialogue qui est: est-ce qu'il faut le structurer ? Et si oui, comment ?
structurer le sujet ou structurer... Enfin, moi,
alors,
je peux parler
quel a été le choix que tu as effectué à ce sujet quand tu as effectivement coordonné ce livre ?
Sur la structure de l'ouvrage. Quand j'ai commencé à travailler, à réfléchir sur le sujet, il m'a semblé important... Alors, on aurait pu tout à fait opter par une organisation dans le sommaire. Alors, je ne sais pas si c'est possible éventuellement de...
Ça ne suit pas.
Ça doit être l'autre.
Non,
l'autre
attends, je vais essayer.
On aurait pu avoir une approche à partir des activités de ce qu'on sait faire. Donc, j'aurais pu structurer le sommaire avec collection, public, médiation, bâtiment, etc., espace. Mais on serait resté dans une forme de silotage. Et j'ai trouvé très intéressant dans les interventions précédentes la notion de transversalité qui est quand même fondamentale pour s'emparer des enjeux de transition écologique. Et du coup, le parti pris du sommaire, ça a été de construire ce sommaire en trois temps. Fonctionner durable, manager environnemental, agir responsable, pour être vraiment sur trois termes d'action, trois termes qui continuent cette notion d'engagement qui est dans le titre, hein, qui est presque un manifeste, et d'être vraiment sur cette idée que s'engager dans la transition écologique, c'est pas simplement répondre par des solutions, des actions adaptatives dans ce qu'on sait déjà faire, mais on est vraiment dans cette transversalité du pilotage, de l'organisation, de la vie d'un établissement. D'où cette structuration en trois thèmes, en trois parties.
Ok. Donc je suis désolée, on voulait afficher le sommaire, mais ça n'a pas fonctionné.
Par contre, là, vous voyez tous les auteurs que je remercie. Hein, c'est vraiment un ouvrage collectif. Donc voilà, c'est bien de Merci. Pouvoir voir tous les auteurs aussi qui sont intervenus dans cet ouvrage et qui ont tous, je complète sur les auteurs, qui ont tous apporté leur spécificité, leur regard. Donc il y a des chercheurs universitaires, il y a de nombreux collègues qui sont engagés dans de la formation professionnelle, formation continue, qui ont mis en place des expérimentations, des choses du côté de, j'essaie de dire, du circuit des documents, voilà, ou qui contribuent aussi à former sur les enjeux d'empreinte carbone des bibliothèques. Enfin voilà, il y avait vraiment l'idée d'avoir dans ce sommaire une complémentarité des auteurs qui tous parlent de où ils sont dans leur expérience, mais aussi qui croisent leur discours. Et au final, je pense que l'intérêt de les rassembler dans cet ouvrage, c'est aussi que ça crée une réflexion collective, un dialogue collectif plus prospectif sur quelle place pour une bibliothèque dans cette transition écologique, qu'est-ce que ça veut dire.
Et super, comme ça je peux enchaîner. Merci beaucoup Ren. Alors de la même manière, on a éprouvé assez tôt le besoin de structurer notre propos au sein de la commission, ne serait-ce que pour lui donner un sens qui ne soit pas que ponctuel, mais aussi durable et en relation avec le reste. Et en fait, avant même la création du blog, que je vais vous présenter un peu plus avant, on a éprouvé le besoin au sein de la commission Bibliothèque Verte ABF de structurer donc ce propos. Et l'outil qu'on a utilisé pour ce faire, c'était un outil de type carte, cartographie. On a cartographié thématiquement les sujets à couvrir ou déjà couverts. Sur le blog, ça fait l'objet d'une entrée dédiée. Voilà, que je vous laisserai exploserai plus avant ultérieurement, mais que je vous affiche ici. Il faut avoir de bons yeux parce que le nombre de sujets est important. En fait, cette carte, elle nous a permis de mieux identifier le large faisceau de sujets et de les mettre en relation les uns avec les autres. Un arbre donc à plusieurs branches principales qui sont le lieu bibliothèque, les collections, les médiations, le numérique et le cadre et l'organisation du travail. Ça, c'est les branches principales. Et puis, vous le voyez, beaucoup de branches secondaires qui vont permettre d'aller plus loin et de détailler l'ensemble des actions identifiées comme pouvant être amenées utilement. Et entre ces branches, un certain nombre de passerelles. par exemple, c'est là qu'on rejoint la biodiversité, par exemple, enfin c'est là qu'on rejoint la transversalité, pardon, la biodiversité, par exemple, va se situer à plusieurs endroits de ce schéma. Le fait de le présenter comme ça également était un peu une invitation à penser les bibliothèques dans une dynamique d'économie circulaire aussi, de se dire qu'on est sur un principe de vase communicant. Quand on travaille sur un sujet, il en appelle d'autres. Donc cette carte thématique, elle nous a aidé à structurer le travail de la commission. Elle a même servi de base pour se répartir des thèmes à travailler ensemble. Et en même temps, elle nous a paru pouvoir être très utilement partagée sur le blog comme un des points d'entrée dont les collègues pourraient trouver, enfin dans lequel les collègues pourraient trouver. Un certain nombre de clés en fonction de leur mission respective, de se dire voilà, moi ce qui m'intéresse c'est réduire l'équipement, la part d'équipement plastique dans les ouvrages, bon ben j'entre dans le collection, mais en fait ça va me poser d'autres questions et je vais pouvoir rebondir d'un sujet à un autre en dialogue avec les autres personnels des bibliothèques. Voilà, pour l'alimentation régulière du blog, nous anticipons les publications quelques mois à l'avance collectivement, en alternant les thématiques couvertes pour quelque part faire un peu fleurir cet arbre, le faire bourgeonner, le faire fleurir. Et peut-être dire aussi d'un mot sur cette structure, quand je remonte... l'arborescence de cette, enfin, qu'on lit de manière visuelle sur cette carte, elle se rejoue dans l'entrée sujet clé du menu et nous avons aussi souhaité mettre en valeur deux items particuliers qui sont une rubrique agenda parce que le besoin de formation sur ces sujets environnementaux est quand même très important et dans cette rubrique agenda en fait on assure une veille sur l'offre de formation pour les professionnels de bibliothèque sur ces sujets et c'est une offre très plurielle hein, quand on visualise voilà, mois par mois au mois de décembre voilà, au mois de janvier s'il veut bien. Voilà, je ne vais pas vous faire défiler tous les mois, mais on voit bien que beaucoup de formations sont proposées et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a besoin de ces temps de formation. L'autre item dont je souhaitais parler, c'est l'item « La parole A ». C'est donc la dernière entrée du blog. Notre idée dans cette rubrique, c'est de donner la parole à des membres extérieurs à la commission bibliothèque verte ABF, soit issus du monde des bibliothèques, soit extérieurs à celui-ci, mais avec qui il nous semble intéressant et même important de tisser des liens pour construire ensemble. Et parmi ces acteurs, on a d'ailleurs certains qui seront présents cet après-midi, par exemple l'Association pour l'écologie du livre ou l'Association Felipe, Festival du livre et de la presse écologique. On a parlé de format, on a parlé de structure. Plus concrètement, quelles ressources sont proposées sur le livre et sur le blog et quel champ d'application de la transition écologique est-ce que ces ressources reflètent plus particulièrement ?
Quel champ soit à investir ?
Oui. Tu peux le formuler comme ça.
Alors, sur les ressources, je dirais que chaque article, chaque contribution propose à la fois des retours d'expérience, mais aussi des outils méthodologiques, voire des petites fiches pour mener son autodiagnostic. Voilà, on est vraiment sur ce format boîte à outils spécifique à la collection, qui est complété bien sûr par un glossaire et par une bibliographie. Ça, c'est vraiment sur le côté ressources. Après, sur les champs d'application, alors ils sont vastes, je dirais que tout ce que font les bibliothèques, tout ce que savent faire les bibliothèques, tout ce qu'elles font au quotidien, s'inscrivent dans ces enjeux de transition écologique. Hein, on est vraiment sur cette idée de transversalité. Tu m'as posé la question des champs à investir.
Oui, est-ce que tu aurais quelques exemples?
Voilà, je peux donner quelques exemples. Alors pour moi, ça a déjà été dit, mais les enjeux d'information. Donner accès à une information structurée, de qualité. Sélectionner, ça me semble un incontournable. On a vu dans les interventions précédentes plusieurs fois la notion d'éducation au changement, de formation et d'éducation au changement climatique. Un des leviers de cette éducation au changement climatique, c'est le développement d'une forme de littératie écologique. avoir les bagages, les ressources suffisantes pour arriver à décrypter ces enjeux de transition écologique. Et puis on est aussi, on l'a vu avec la première intervention qui était quand même forte, hein, sur le plan même, on va dire, émotionnel, qu'on est dans un changement de paradigme. Et donc, je pense que les bibliothèques, par leur rôle d'information, de mise à disposition de ressources, de médiation auprès des publics, ont cette capacité également d'accompagner ce changement de paradigme, d'accompagner le saut cognitif et émotionnel que ça représente dans nos représentations socioculturelles, cette transition écologique.
D'accord. Merci beaucoup.
J'ai d'autres exemples, hein, sur, je peux intervenir après.
Alors, du côté du blog... Une des forces probablement de cet outil, c'est, on le disait, c'est qu'il soit vivant et évolutif. C'est-à-dire que autant la carte permet d'identifier des champs d'application au jour d'aujourd'hui, autant on peut en ajouter et on peut effectivement couvrir petit à petit tout ce qu'il y a à couvrir, recréer les passerelles là où elles sont à créer. Moi, je vais peut-être mettre en éclairage... Au sein de cet outil qu'est le blog, les différents types de ressources en fait, qu'on met à disposition qui vont rejoindre des sujets clés tels que Rennes vient d'en évoquer dans le traitement qui est proposé. Alors tout d'abord, des ressources sur le cadre de la transition écologique qui vont rencontrer le monde des bibliothèques. Donc on a des éclairages juridiques par exemple à travers la loi Robert, le cadrage réglementaire de la sobriété numérique, les normes de construction, et on vise toujours à contextualiser ces éléments dans l'environnement bibliothèque et sur les questions posées. Et qui vont donc traiter à la fois des questions du bâtiment, si on cherche les champs d'application concrets, les questions du bâtiment, les questions du numérique, les questions des sorties de collection, hein, dont il a été question tout à l'heure aussi. Puis il y a tout ce qui est ressources sur la formation et le développement des compétences pour justement... justement construire cette littératie, hein, que tu évoquais, Rennes, en transition écologique et responsabilité sociale. Donc il y a la rubrique agenda que j'évoquais il y a quelques instants, et puis il y a aussi une rubrique sur le blog qui est une rubrique de formation où nous partageons des restitutions de journées professionnelles, des replays de webinaires, des kits pédagogiques, et ces ressources, elles sont nombreuses, elles sont riches et elles présentent, je le dis pour l'ensemble des collègues présents, le grand avantage de pouvoir être consultées au fil de l'eau et des besoins. C'est comme un livre dont on va pouvoir feuilleter au fur et à mesure les passages qui nous intéressent par rapport à tel ou tel aspect de notre métier. Là, on a des webinaires de plus en plus sur une grande pluralité de sujets, et le webinaire est un format assez court qui dure en général une heure. Donc c'est aussi un temps pris dans la vie professionnelle qui n'est pas aussi conséquent, par exemple, qu'une journée entière dédiée sur un sujet, qui aborde d'autres sujets, bien sûr, qui est un autre rôle. Et puis, sur le blog, il y a aussi des ressources pratiques, peut-être surtout d'ailleurs, des ressources pratiques qu'on choisit pour leur caractère inspirant, mais aussi pour leur caractère prêt à l'emploi. Donc ça couvre des domaines variés, et en fait, on constitue ces ressources en nous fondant sur des retours de terrain que nous synthétisons et que nous partageons dans un esprit de fiches pratiques. Donc je vais donner quelques exemples justement de champs d'application concrets. Donc pourquoi et comment, par exemple, sensibiliser les usagers et personnels, enjeu effectivement très important, à la transition écologique à travers des outils de type fresque. Comment organiser une fresque du climat, comment organiser une fresque du numérique, à travers la mise en place de jeux. L'approche ludique peut être un bon vecteur, ou encore par la constitution de groupes de parole qui réuniraient par exemple usagers et personnels. Pourquoi et comment construire une mission transition écologique dans une bibliothèque? On parlait de structuration de ces missions, alors comment le faire? Donc des exemples concrets de rédaction de fiches de poste en lien avec les référentiels métiers. Pourquoi et comment développer des collections? Donc on rejoint encore la question de l'information. Pourquoi et comment constituer des collections éco-responsables, et ça va se situer, ça va poser deux questions. À la fois comment constituer des fonds documentaires sur le sujet, et à la fois comment œuvrer à des circuits documentaires éco-responsables pour nous-mêmes nous inscrire dans un objectif de réduction de l'empreinte environnementale, dans une logique d'économie circulaire. Il y a d'autres exemples, hein, comme pourquoi et comment monter des services verts, à travers l'exemple de Bricotech, Créatech, etc. Pourquoi et comment mener des actions et construire des dispositifs en faveur de la biodiversité, donc faune, flore, environnement terrestre, marin, etc. Alors, je te propose maintenant, si tu en es d'accord, qu'on se livre à une partie plus ludique de cette intervention, qu'on entame la partie ludique de cette intervention, et qu'on s'interroge ensemble, qu'on mette en lumière chacune un atout, un frein et un défi pour une transition écologique des bibliothèques. Alors, est-ce qu'on commence par un atout ?
Allez, un atout. Un atout, pour moi, les bibliothèques sont déjà, dans leur rôle dans la société, leur inscription sociale, sont déjà des établissements qui ont tout ce qu'il faut pour être des actrices de la transition écologique. Je l'ai dit tout à l'heure, l'importance de l'information. Donc, elles sont dans cette temporalité longue de constituer des fonds, des collections pour documenter la transition écologique, en accompagner la compréhension et l'évolution de nos représentations socioculturelles. Et en même temps, les bibliothèques bénéficient d'un maillage territorial très riche. Souvent, elles sont très bien identifiées des publics. Et donc, elles ont aussi un rôle, je dirais, d'incapacitation citoyenne, collective, pour sensibiliser les publics à ces enjeux de transition. Je compléterai aussi par un aspect beaucoup plus pragmatique. On l'a vu tout à l'heure, les enjeux de résilience urbaine avec des projections des projections de plans de ville à 40, 50 degrés. Comment on vit dans ces conditions-là ? Et les bibliothèques peuvent aussi se constituer comme refuge climatique, intégrer ces plans de résilience urbaine et se constituer comme des lieux d'accueil ponctuels, momentanés, pour des publics qui sont en situation de vulnérabilité climatique. Donc je pense que ça, c'est aussi un atout, cette identification qu'elles ont des publics.
Alors moi, je te rejoins pleinement sur cet atout. Je pense qu'effectivement, notre meilleure carte atout, c'est que les bibliothèques sont déjà naturellement actrices de la transition écologique. C'est inscrit dans leur ADN quelque part, puisqu'elles jouent de fait un rôle dans cette transition au travers de leur mission en tant que service public de proximité. Alors, certes, on se déplace pour y aller, mais comme tu le disais, il y a un maillage territorial qui permet une desserte au plus près des besoins, et on s'inscrit par ailleurs dans un réseau de partenariats qui font des bibliothèques un lieu de référence pour un large panel de structures qui va de la crèche aux maisons de retraite. On le sait, on touche une grande diversité de publics, même s'ils ne sont pas forcément tous inscrits en tant que tels à la bibliothèque. Par ailleurs, et peut-être surtout, les bibliothèques, elles réunissent des biens qui sont mis en commun, le mot a été prononcé aussi tout à l'heure de manière assez forte, qui sont mis en commun, qui sont mis en partage et qui donnent lieu à des utilisations multiples. Quand on constitue des collections, on est très loin d'un usage individuel, unique, jetable, on est tout de suite dans une construction du collectif. Et plus que jamais, je pense qu'on a besoin de ce type de lieu qui propose du commun, et on a besoin de valoriser ce type de lieu qui propose du commun, d'autant que ce commun a fait l'objet d'une large diversification. Les collections d'aujourd'hui ne sont plus du tout que des livres et des revues. On est vraiment dans une offre très diversifiée qui va comprendre de la musique, du cinéma, des jeux et même toutes sortes de services, grénothèque, etc. Et puis, effectivement, les bibliothèques, elles fournissent des lieux, donc refuges climatiques, et aussi des espaces publics, donc, qui sont des lieux à fréquenter et aussi des lieux d'information et de construction partagée des savoirs. Et de ce point de vue, ça en fait un lieu très propice à la construction de ce qu'on pourrait appeler l'éco-citoyenneté. Alors maintenant, on a vu le verre à moitié plein. On peut essayer de voir le verre à moitié vide et de s'interroger sur les freins. Qu'est-ce que tu identifies comme frein pour une transition écologique des bibliothèques ?
Les freins, ils sont multiples. On pourrait parler des moyens, des échelles, voilà. Mais je pense qu'il y a un frein à ne pas occulter, c'est que la transition écologique, ce n'est pas une évidence. Et ça peut susciter aussi des réactions de sidération, d'éco-anxiété, de scepticisme. et que du coup ça demande du temps de s'acculturer à ces enjeux de transition écologique, même si on voit que ces questions de changement climatique, ça fait longtemps qu'on nous en parle, mais il faut quand même qu'on les intègre. Et puis même dans la profession, ça peut nous amener aussi à bousculer nos pratiques professionnelles et à réinterroger nos périmètres, nos savoirs métiers, nos pratiques. Et je pense qu'alors c'est un frein, mais on peut y voir un frein positif aussi, peut-être l'occasion de se réinterroger et de rebondir là-dessus, mais voilà, il ne faut pas occulter que ça ne va pas de soi.
Alors, j'ajouterais, je partage complètement ce frein, et j'ajouterais qu'un autre frein, c'est celui des moyens actuellement à notre disposition pour mettre en œuvre une transition écologique des bibliothèques. On en parlait aussi tout à l'heure, aujourd'hui, il semble important d'aller plus loin que de simples initiatives individuelles, qui sont pourtant appréciables et, je l'espère, valorisées dans les établissements, au regard de l'urgence, en fait, du sujet. Il s'agit plutôt d'établir maintenant des stratégies, d'inscrire le sujet dans les outils de pilotage, dans l'organisation concrète du travail. Alors, ça arrive, ça vient petit à petit, mais c'est encore émergent. Et il y a encore beaucoup de... Enfin, voilà, ça gagnerait à se développer. Avec un levier essentiel qui est donc celui de la formation, voire du recrutement. J'évoquais les questions de fiches de poste tout à l'heure, mais voire du recrutement dédié pour mettre en œuvre ces changements dans les établissements. Cette mise en œuvre, elle va aussi passer par des moyens budgétaires qui sont à construire en lien avec les acteurs concernés sur le territoire donné. Et ou à l'intérieur d'un budget donné. Donc il s'agit aussi de faire des choix pour engager cette transition écologique de manière construite et ce avant d'avoir moins le choix. Il s'agit donc d'anticiper en fait, de se donner les moyens d'anticiper. Alors en parlant d'anticipation, du coup, on peut se tourner vers le futur.
Mais... Comme défi, je vais rebondir sur ce que tu as évoqué, les enjeux de formation, ça me semble un incontournable, ça a été dit aussi dans les interventions précédentes. Je pense qu'il y a un véritable enjeu de montée en compétences collectives de la profession. Je la situe à peut-être trois niveaux, enfin c'est pas hiérarchique, mais trois grands enjeux au sein de ces enjeux de formation. Il y a déjà un premier enjeu de sensibilisation, qui est un enjeu de sensibilisation professionnelle, mais aussi citoyenne, de façon générale. Et ça, on voit déjà des établissements qui répondent en organisant collectivement des fresques pour les personnels. Voilà, je pense à fresques du climat, fresques du numérique, ateliers d'automne. On voit se multiplier ces formats de sensibilisation collective. Et je pense que ça, c'est déjà un premier enjeu pour comprendre, s'approprier les enjeux de transition écologique. Il y a un deuxième enjeu de formation qui est vraiment une formation... adaptative avec des approches métiers dans nos spécialités, voilà, sur les collections, sur le numérique, sur l'accueil des publics, comment dans chacune de nos activités on arrive à intégrer les enjeux de transition écologique et comment ça nous amène à nous repositionner dans nos pratiques et nos savoirs métiers, voire à réinventer, à déconstruire, à faire plus avec moins et être créatif. Il y a un autre enjeu également, donc ça relèverait presque d'une formation continue, FTLV ou formation continue, ou en intra également, les établissements peuvent organiser ça en intra. Et puis un enjeu de pilotage aussi, comment on pilote un établissement dans cette transition écologique, comment on conduit l'action publique de la transition écologique en bibliothèque. C'est aussi, il me semble, un enjeu de formation qui est aussi, notamment au niveau de la formation initiale des professionnels. Et puis il y a quelque chose qui relève peut-être moins de la formation proprement dite que d'une capacité collective. Donc là, ça s'adresse vraiment à toute l'interprofession d'être en capacité de se projeter, parce que adapter nos métiers et proposer des solutions de type adaptatif, c'est bien, mais ça ne suffit pas si on n'est pas dans une construction collective de... On parle de quelle bibliothèque demain ? Quelle sera la valeur ajoutée d'une bibliothèque en 2030, en 2050, dans des territoires en souffrance, dans des territoires... qui devront affronter les effets du changement climatique. Et donc, je pense qu'il y a un autre enjeu dans la continuité de ces enjeux de formation, qui est un enjeu vraiment de capacité, se donner les moyens de réfléchir collectivement vers quel modèle de bibliothèque on va.
Alors, tu es partie de la montée en compétence de l'ensemble des personnels, quelque part, à la question de la place et du positionnement des bibliothèques, aujourd'hui, demain. Je vais continuer dans cette lancée en parlant de Il me semble qu'un défi aujourd'hui et pour demain, et même dès aujourd'hui, c'est de bien situer quels sont nos atouts, les marges de progression en bibliothèque, mais aussi nos limites. Donc bien connaître ce que les bibliothèques ou les bibliothèques peuvent aller sur ces sujets tout en expérimentant, et aussi mieux connaître parallèlement les autres actrices et les autres acteurs de la transition écologique. Pas forcément porter toute la transition écologique, mais se situer dans un environnement donné à partir d'une double connaissance pour nous inscrire au mieux dans un écosystème de la transition écologique qui est en train de se constituer. Donc c'est repérer ces autres acteurs aussi, tisser des liens, nouer des partenariats avec ces autres sphères. C'est du coup croiser les compétences et expertises métiers dans un objectif de mettre en œuvre une transition écologique dans des réseaux de proximité comme à des échelles plus larges. Donc je dirais que le défi, enfin un des défis est double, c'est de progresser dans la transition écologique des bibliothèques par un double mouvement. Un mouvement de progression et aussi de promotion des atouts et des ressources des bibliothèques en matière de transition écologique auprès de nos publics, tutelles et partenaires. Et bien évidemment, avant ça, dans le cadre d'un travail dans nos établissements aussi. Et ce, à la hauteur de nos missions et de nos moyens, et en même temps, un mouvement de dialogue et de partenariat avec les autres acteurs qui sont déjà en place ou qui sont émergents. On voit bien aussi, à travers ces enjeux à venir de formation, d'une nouvelle génération, etc., que ça ne va ne faire qu'évoluer. Donc, cette mise en relation pour co-construire les conditions d'une transition écologique réussie au-delà des seuls murs des bibliothèques. Est-ce qu'on a un peu de temps pour des questions avec la salle ?
Oui, on a un peu de temps.
Alors, c'est parti.
Voilà, il y a une question là-bas, vas-y.
Oui, bonjour, Claire Godoy, membre de l'ABF. Je voulais juste m'étonner que dans le parcours de cette matinée, un échelon essentiel n'ait pas été ni sollicité, ni même évoqué, qui est l'échelon de l'administration territoriale, parce qu'on a l'impression, en écoutant toutes les interventions, que les bibliothèques dépendent de plus ou moins du ministère de la Culture, ce qui n'est pas le cas. Elles dépendent de leur collectivité territoriale, et elles sont un service de leur administration territoriale, et à ce titre, elles s'inscrivent forcément dans la politique locale de leur collectivité. Et donc, pour tout ce qui concerne la transversalité, les moyens, les objectifs, tout ce qui a été évoqué en fait ce matin, l'échelle locale est essentielle puisque toutes les décisions sont prises par cette échelle, administration locale, collectivité locale. Voilà, c'est pas vraiment une question, c'est un étonnement de ma part. Rien n'est possible au niveau des bibliothèques sans la décision de celles qui les gèrent, c'est-à-dire leur collectivité.
Tu aurais vu qui comme intervention, parce que
ah ça je sais pas. Je sais pas, puis c'est un petit peu tard pour y penser, mais ça me paraît un angle
oui,
mort.
On parlera
vraiment regrettable, quoi, parce que on va se retrouver coincé. Les bâtiments, c'est les collectivités. Les budgets, c'est les collectivités. Les politiques d'animation culturelle, c'est les collectivités. Là, c'est bien, Nicolas Jean, j'ai dit que tous les grands cadres du ministère ont été formés. Quid de la formation des élus ? Quid de la formation des cadres dirigeants de la
territoriale ? Il y a des formations CNFPT, mais on peut y répondre. Il y a des formations des cadres au niveau du CNFPT qui est en cours, et peut-être M. Léniel veut compléter.
Oui, il y a une formation qui est mise en place aussi pour tous les cadres là, et qui est en train de commencer par grandes régions. Hein, donc ça, c'est en train d'être mis en place. Et effectivement, vous avez raison, mais les collectivités sont aussi engagées. Moi, je parle pour la région Normandie où je travaille également. C'est que vous savez qu'il y a des COP régionales aussi qui voient le jour. Donc il y a ce travail qui doit être mené, comme je l'ai un peu dit dans la conclusion, à toutes les échelles, hein, de l'échelle internationale, nationale, les collectivités, puis à l'échelle nous-mêmes du citoyen.
Oui, je voulais juste rajouter que pour ce qui est des bâtiments, il y a la RE 2020 qui est en cours donc une réglementation sur les bâtiments qui va être mise en place pour les bibliothèques, et que oui, ça dépend des collectivités, mais à partir du moment où il y a une réglementation qui est contraignante, c'est pour les nouveaux bâtiments, mais la réglementation permet à l'État de faire descendre cette contrainte sur les collectivités. Effectivement, il faut des sous, alors là on va demander de la DGD, c'est toujours pareil, mais c'est quelque chose qui est pris en compte de cette façon-là par les actions des DRAC au niveau de l'action de l'État de façon régionale.
Oui. Ok, c'est pas une question qui est oubliée volontairement, mais on va passer la parole là.
C'est par ici. Christelle Sudreau-Fontaine, donc directrice de la bibliothèque de Clichy-sous-Bois. Alors justement, parlant des collectivités territoriales, j'avais peut-être une idée d'outils qui pouvaient nous aider peut-être à argumenter auprès de nos élus. Je pense à ce nouvel outil de calcul des typologies des bibliothèques qui a été mis à jour en 2022 par l'Association des bibliothécaires départementaux. Et juste, je m'étonne effectivement que dans les 9 critères qui ont été trouvés, ne figurent pas de critères de transition écologique. Alors je me dis que peut-être il faudrait, puisque je vois qu'il y a des mises à jour qui sont encore faites sur ce nouveau outil de calcul, que ça pourrait être pertinent d'ajouter un critère de transition écologique. Alors peut-être avec le nombre d'actions culturelles qui sont menées en faveur de ce sujet, peut-être avec un calcul du bilan carbone de la bibliothèque. Enfin bref, il y a de multiples sous-critères qui peuvent être pris en compte. Mais en tout cas, nous en tant que direction de bibliothèque, ça pourrait nous aider grandement à mettre notre bibliothèque sur une échelle, à pouvoir se comparer entre établissements sur notre avancée dans la transition écologique et à pouvoir du coup argumenter et mobiliser nos élus face à cet enjeu. Voilà.
Oui, moi c'était juste Anne-Valérie Malavieille, je travaille en BM à Paris. Et pour rebondir sur cette idée que comment motiver nos tutelles directes à nous subventionner, et je trouve que le début de réponse, c'était la dernière intervention de Julie à ce propos, de faire notre promotion auprès de nos tutelles sur le rôle que nous pouvons jouer, puisqu'elles aussi, elles ont des objectifs à tenir en termes de diminution de l'empreinte carbone, etc. Et bien nous, on peut rentrer dans leurs objectifs. Voilà, c'est peut-être à plus petite échelle, mais c'est une idée.
Il y a aussi une main qui s'est levée au deuxième rang. Merci.
Bonjour, Mélanie Letorec de la Bibliothèque municipale de Lyon, en charge du développement numérique. J'ai une question à Benoît Léniel. Dans les différentes présentations, le mot numérique n'est jamais vraiment apparu, alors qu'il me semble que cette entrée est particulièrement inquiétante en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et je retrouve aussi peu d'éléments dans le rapport du GIEC. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui cette question du numérique est prise en compte dans les stratégies et aussi dans la quantification ?
Alors, avant de répondre à la question, je voulais intervenir sur ce qui a été dit précédemment. Et pour moi, je pense, par rapport aux collectivités, travaillons beaucoup avec les deux collectivités, parce que je suis aussi vice-président de mon université sur ces sujets-là. Et donc, c'est vrai qu'il faut aller les rencontrer avec une stratégie. Voilà. Moi, je prends l'exemple aussi des relations qu'on a avec les collectivités, avec le ministère, sur les questions de budget. On est souvent interpellé, le ministère, en disant « mais quel budget ?» Voilà, vous mettez le ministère pour avancer sur ce sujet-là. Et la réponse est de dire « les schémas directeurs, mettez en place votre stratégie, parce que voilà, mettez en place votre stratégie et on viendra sur un budget. D'ailleurs, le ministère a mis en place ce qu'on appelle des contrats d'objectifs de moyenne performance avec un axe dédié à la transition écologique. Voilà. Et vous l'avez dit aussi sur le budget, moi je vois dans notre université qu'est-ce qu'on a fait. Il y a un budget, dans notre budget interne, on a dégagé des marges de manœuvre et on a recruté par exemple 2 agrégés pour la formation, voilà, sur notre budget interne. On répond aux comptes du ministère et dans les stratégies plan État-région, on discute avec la région, on discute avec notre métropole, mais en venant avec une stratégie. Donc je pense que quand on vient avec une stratégie, voilà, on peut discuter après budget. Voilà. Mais c'était pour rebondir par rapport à ce qui a été dit. Alors sur la question, le numérique n'apparaît pas parce qu'il est sous-tendu un peu partout. Voilà. Alors le numérique... Oui, a un impact. Alors après, moi je suis pas un spécialiste du numérique. Je vous conseillerais. J'ai vu 2 conférences vraiment très intéressantes parce que sur le numérique, parfois on a des idées préconçues. Voilà, sur le ski, par exemple, en termes de bilan carbone sur le numérique. Et les 2 conférences que j'ai vues récemment montraient que sur le numérique, par exemple, ce qui a le plus d'impact, c'est l'achat. C'est l'achat du matériel, c'est les grands écrans. Et moi, j'étais même pas conscient de ça avant d'avoir vu. Et j'ai vu 2 conférences très intéressantes qui mettent des chiffres. Voilà. Donc, effectivement, le numérique a un impact et c'est sous-entendu dans les plans qu'on met en place. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ciblé, en tous les cas, l'État sur ce que je vous présente. Le numérique est sous-entendu dans ce que j'ai présenté. Voilà. Mais c'est aussi, oui, bien sûr, c'est un impact en termes d'achat.
C'est le cycle de vie, quoi, quand on parle d'achat.
C'est le cycle de vie,
exactement. C'est réfléchir en termes de cycle de vie de ce qu'on achète.
Et puis après, effectivement, il faut trouver un équilibre avec les... On parle aussi beaucoup des centres de calcul, voilà. D'un autre côté, pour la recherche, si vous n'avez pas de centre de calcul, vous avancez pas sur les connaissances. Vous voyez, moi je prends aussi souvent mon cas. Je travaille avec la NASA et le CNES sur des programmes de recherche. Je suis obligé d'aller aux États-Unis de temps en temps. J'essaie d'y aller le moins possible, mais c'est aussi parce que j'en ai besoin dans ma recherche. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est toujours d'essayer de se poser, de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et se dire, voilà. Trouver un équilibre, parce qu'effectivement, autrement, le plus simple, c'est on arrête tout, et effectivement, votre bilan sera très bon. Mais vous voyez, il faut trouver un équilibre entre tout ça.
Sur le numérique, alors, sous réserve de ne pas dire de bêtises, mais je crois que la loi REN, donc pour une empreinte environnementale, pour réduire l'empreinte environnementale du numérique, va obliger les collectivités de plus de 50 000 habitants à adopter des mesures. Je crois que l'échéance est 2025, si je ne dis pas de bêtises.
Moi, je voulais juste rebondir sur le fait que tant les questions de coopération territoriale et de discours vis-à-vis des tutelles autour de l'advocacy feront l'objet de présentation sur le forum de cet après-midi. Et aussi la question du numérique, puisqu'il y aura un stand sur le numérique éco-responsable.
Une dernière question. Voilà, allez-y. Je sais pas, vous n'avez pas de micro. Non, mais j'arrive, j'y vais du coup. Une dernière question et après, on passera la parole à Yoann Marchand. C'était vous la question.
Bonjour, Stéphanie Charpentier, médiathèque d'Ivry-sur-Seine. Moi, j'ai une petite question, parce que les tutelles sont là, c'est la question des moyens humains. On dit qu'il faut faire plus avec moins, mais quels moyens humains? Parce que toutes ces nouvelles missions, en fait, nécessitent de développer partenariats, connaître les interlocuteurs du territoire, et je suis comme vous, je pense, complètement convaincue. Mais en fait, tout ça, c'est des missions extrêmement chronophages. Et en fait, on développe des nouvelles missions maintenant de transition écologique comme on a pu faire avant, il y a 10-15 ans, dans les missions plutôt sociales, mais toujours en fait à moyen constant, quasiment. Moi, je remarque que les embauches, vous parliez d'embauches sur ces thématiques, c'est rarement des créations de postes, hein, c'est des départs à la retraite qui sont modifiés et encore. Donc la question, c'est que si un jour on veut vraiment être des acteurs extrêmement dynamiques et prendre notre place, il faut aussi donner les moyens humains aux médiathèques. On ne peut pas continuer à élargir les horaires d'ouverture, faire des ateliers de conversation, de la médiation culturelle et penser la transition écologique à moyen constant.
Moi, je peux pas. Je ne peux pas parler au nom du ministère de la Culture, mais je peux parler au nom de mon ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Comme je disais, hein, il peut y avoir du redéploiement en interne. Nous, c'est ce qu'on a fait à l'Université de Rouen. On a créé un institut des transitions. Comme je vous ai dit, on a fait du redéploiement avec 2 postes d'agrégés pour la formation, 1 poste d'ingénieur de recherche, 1 poste d'ingénieur d'études, vous voyez, donc 4 postes. Et dans le cadre justement ce qu'a mis en place le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, les COMP, les contrats d'objectifs, de moyens et de performance, eh bien là, on peut demander effectivement de la ressource humaine. Et là, sur la première vague des COMP, il y a eu 17 établissements, et les 17 établissements ont demandé des ressources humaines dans le cadre de ces COMP pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Le ministère de la Culture, je ne peux pas parler, moi je parle ce que je connais sur le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Donc il y a une volonté, vous voyez, de mettre en tous les cas dans le ministère de l'ESR, de mettre des moyens et des moyens humains, parce qu'effectivement c'est nécessaire. Voilà.
Bon, pour les collectivités, on sait que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, malheureusement. Mmh.